Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Retour donc ce soir à nos lectures en liberté et au roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Le jeudi matin, Hélène se leva tôt. Son fils avait fini par lui raconter toute l'histoire dans le détail. Elle avait retourné le problème dans tous les sens. Elle avait pris sa décision. Elle se rendit donc dans la chambre d'Anthony, ouvrit la fenêtre et les volets en grand et vint s'asseoir sur le rebord du lit. On entendait des oiseaux au dehors. Et plus loin, la rumeur de l'autoroute. Une belle journée s'annonçait. Elle avait réfléchi longuement à la formulation de ses phrases. Il lui semblait que tout l'avenir de sa famille dépendait de leur solidité. « On va aller chez ce garçon. Je vais parler à son père. Je vais parler à ton copain. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. »«
Mais t'es complètement folle !» dit Anthony.
Il tâcha de la dissuader, mais c'était peine perdue. Une fois qu'elle avait un truc en tête, il n'y avait plus rien à faire. Elle partit au travail à l'heure, pomponnée, avec 5 cm de talons et du bleu sur les paupières. À présent qu'elle avait pris une décision, son inquiétude s'était presque entièrement dissipée. Toute la matinée, Anthony ressassa le truc, en se perçant des points noirs devant le miroir de la salle de bain. Elle vint le chercher en début d'après-midi, comme convenu. Il ne desserra pas les dents de tout le trajet. Il lui avait expliqué 10 fois que ça ne servait à rien de discuter avec ces gens. Hélène n'était pas de cet avis. On allait parler entre adultes, tout irait bien. Elle avait confiance. Pas au point de se garer au bas des tours, quand même. Ils finirent le chemin à pied. La ZUP où vivaient les Bouali n'avait rien de très impressionnant. Elle n'était pas comme ces immenses cités dortoirs, des dalles de sommeil de Sarcelles ou Mantes-la-Jolie. Elle comptait une 10aine de blocs à peine, de faible hauteur, qui, vu du ciel, dessinait un motif en quinconce. S'y ajoutaient 3 tours plus hautes d'une 15aine d'étages, dont la fameuse tour Manet. Depuis quelques années, cette ZUP des 30 Glorieuses s'était beaucoup dépeuplée et les derniers locataires avaient trouvé tout naturel d'étendre leur domaine personnel aux appartements laissés vacants. Ils s'étaient ainsi constitués de jolis F5 à coups de masse. 2 cuisines, 2 salles de bain et 1 chambre pour chaque môme. Les loyers, eux, restaient inchangés. À l'office HLM, on feignait d'ignorer ces privautés immobilières. Ces tours, on n'en ferait rien de toute façon. Entre les paraboles et le linge qui séchait, on voyait le crépi se déchirer, la rouille gagner les balcons, dégouliner des tuyaux d'évacuation, s'emparer des façades en coulure brune. Ceux qui l'avaient pu étaient partis depuis longtemps déjà, pour le Luxembourg, l'île de France, ou le Bled. S'ils avaient leurs annuités. Les plus chanceux étaient parvenus à s'offrir un pavillon fruit de 20 ans de sacrifices. Ces immeubles mités signaient au fond l'échec d'un monde et de ses architectes. Bientôt ils tomberaient, et pas dans un bel écroulement comme à la télé on les dépecerait au bulldozer, mur après mur, selon une méthode d'insectes. Les bâtiments éventrés laisseraient voir des tapisseries à fleurs, des barres de fer et du formica, des placards ouverts, comme à Londres, pendant le Blitz. En 2 semaines, ce serait réglé. 50 années de vie parties en gravat, vivement, pensaient les planificateurs. En attendant, ça fourmillait encore petitement des familles anciennes installées là depuis 30 ans, facile. Avant de monter, Anthony et sa mère hésitèrent sous les arcades de la tour Picasso, en face de la tour Cézanne. Le garçon avait envie de pisser et de se laver les mains. Dans ses paumes, les lignes de vie et de chance étaient noires de crasse. Il se sentait transpirant et ballonné.
« Arrête de gigoter comme ça !» fit sa mère. « J'ai envie de pisser, moi aussi, mais retiens-toi »
Pour se donner du courage, elle prit un tic-tac.
« Allez, feu !»
Anthony gémit, mais elle traversait déjà la rue. Il était 15 heures et des brouettes. Un peu plus loin, sur leur droite, des mômes jouaient sur une aire de jeu, oscillant sur des pandas à ressort. Assises sur des bancs, des mères exténuées les regardaient faire. Certaines agitaient un landau ou sommeillaient un nourrisson. Quand Anthony et sa mère traversèrent la rue, elles regardèrent dans leur direction et virent passer une grande femme brune sur des semelles compensées et un garçon avec un sac sur le dos. On aurait dit des voleurs. Dans le hall, la mère et son fils furent surpris par la fraîcheur du béton. Ils empruntèrent les escaliers. Le silence était total. Sur les marches, leurs semelles produisaient de désagréables couinements que réverbérait la cage d'escalier. Ils s'arrêtèrent au 3e et consultèrent les noms sur les sonnettes. Les Bouali habitaient le 1er appartement à droite.
« Alors, vas-y !»
La mère sonna, et un son grêle monta les étages jusqu'en haut. Dans ce silence de tombeau, on avait l'impression que tout l'immeuble avait soudain la chair de poule.
Bah « C'est bon, arrête !» fit Anthony en lui saisissant le bras.
L'écho de sa voix les glaça. Entre ces murs, chaque bruit les dénonçait. Ils attendirent une réaction, mais rien ne vint. Anthony et sa mère se trouvaient seuls, en territoire ennemi, avec leur trouille et leur audace, qui s'amenuisaient à toute vitesse. Alors un bruit de métal monta de la serrure. Des mécanismes compliqués jouèrent derrière la porte qui s'ouvrit sur un homme de petite taille, tout vêtu de jean et qui portait la moustache. La mère voulut sourire. Anthony baissait la tête. Dans la lumière jaune du couloir, la silhouette de M. Bouali paraissait déformée, la tête forte et les mains trop lourdes. Son visage était marqué de rides profondes, concentriques, où ses yeux faisaient comme 2 miroitements affaiblis. Il les observait, paisibles, doucement interloqués. « Bonjour, monsieur, » fit Hélène sur un ton d'excuse. L'homme se taisait, curieux et dispo. Quand Hélène demanda si Assine était là, les plis de son front se creusèrent encore. « Non, il n'est pas là. »
Vous savez s'il rentre bientôt? Vous voulez quoi?
Dans leur dos, Hélène et son fils éprouvaient le vide de la cage d'escalier. La verticalité silencieuse de l'immeuble, une présence nombreuse, mobile, un fourmillement sourd. Tout un peuple désœuvré se trouvait là aux aguets. Tenu par des postes de télé, des drogues et des divertissements, la chaleur et l'ennui. Un rien suffirait à l'éveiller. Hélène répondit qu'elle voulait lui parler, c'était important.
« Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'homme.
« Je préférerais en parler quand votre fils sera là, monsieur. » La politesse d'Hélène avait quelque chose de suspect. Elle rappelait la distance calculée d'un notaire ou l'intonation du médecin qui apporte de mauvaises nouvelles.
« Ben, il n'est pas là !»
répéta l'homme en repoussant déjà la porte. Hélène opposa sa main ouverte puis son épaule. « C'est important, je dois vraiment lui parler, monsieur Bouali. Qu'est-ce qu'il a fait ?»
À travers l'écorce, Hélène avait senti un vacillement. Elle demanda s'il pouvait entrer un moment. Monsieur Bouali ne savait pas, il était inquiet. Avant tout, il ne voulait pas qu'on l'emmerde. Hélène insista.
« Non, fit l'homme, laissez-moi. »
À l'étage du dessus, une porte s'ouvrit et des voix jeunes typées résonnèrent. Il y avait aussi un bruit de chaîne, des halètements, un chien qui grognait. Anthony poussa franchement la porte et entraîna sa mère.
« Viens !»« Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit ?»
L'homme avait chancelé sous la poussée des intrus. Il le regardait sans y croire.
« Mais vous êtes fous, sortez !»
Anthony referma la porte sur eux et ferma le verrou. Tous trois se trouvaient maintenant pris dans l'exiguïté du couloir. L'homme pouvait sentir les effluves que dégageait la chevelure d'Hélène. C'était un frais parfum de tilleul piquant, une bouffée de femme. Il en resta tout chose. Elle le fixait avec des yeux ronds, son index sur les lèvres, le suppliant de se taire. Les voisins descendirent avec leurs chiens. Ils parlaient en arabe, assez gaiement. Anthony avait de plus en plus envie de pisser. Quand les autres se furent éloignés, il demanda « Vous avez des toilettes ?» La question désamorça le vieil homme. Il lui dit de prendre au fond du couloir à droite. Hélène en profita pour tout lui raconter. Elle l'avait remâché longtemps, son histoire, et elle la dévida sans effort en insistant là où il fallait. Ainsi, elle prononça le mot « voleur » à deux reprises, mais d'une voix suave, consolatrice. Progressivement, la physionomie de l'homme changea. Il se sentait horriblement vieux et responsable tout à coup. Avec Rania, ils avaient quitté un pays pauvre et trouvé à Ayange un asile relatif. À l'usine, il avait obéi 40 ans, ponctuel, faussement docile, arabe toujours. Parce qu'il avait vite compris que la hiérarchie au travail ne dépendait pas seulement des compétences, de l'ancienneté ou des diplômes. Parmi les manœuvres, il existait trois classes. La plus basse était réservée aux Noirs, aux Maghrébins, comme lui. Au-dessus, on trouvait des Polonais, des Yougoslaves, des Italiens, les Français les moins dégourdis. Pour accéder au poste situé plus haut, il fallait être né hexagonal. Ça ne pouvait pas être autrement. Et si par exception, un étranger devenait OS ou accédait à la maîtrise, il demeurait toujours une aura de soupçon autour de lui. Un je ne sais quoi qui lui donnait tort d'avance.
Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Me prenais pour bénir en conduisant d'une main. Mais je t'ai rencontré et puis tout a changé. Le piège était facile, tu es tombé dans mes bras. Se promenait en ville, c'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me blaser. Même dans l'obscurité, je te revois encore. Je ne t'oublie pas.
J'ai longtemps cherché. La nuit à te remplacer. Et pour quelques heures parfois, c'était la Dolce Vita. Mais cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Et le soleil décline sur ma mémoire en ruine. Tous les soirs sans fin, je traîne un vieux désarroi dans mon gilet de chagrin, loin de la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je voudrais l'oublier. Mais dans mes rêves glacés, je te revois encore.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons au roman de Nicolas Mathieu après cette pause musicale. Le fonctionnement de l'usine n'avait rien d'innocent. On aurait pu penser de prime abord que l'efficacité décidait de la répartition des hommes, de l'emploi et de leurs forces. Que cette logique-là, que cette brutalité-là, celle de la production et de la marche forcée, suffisait. En réalité, derrière cet totem qu'on brandirait toujours plus haut à mesure que la vallée serait moins compétitive, il se trouvait tout un imbroglio de règles tacites, de méthodes coercitives, héritées des colonies, de classements apparemment naturels, de violences instituées qui garantissaient la discipline et l'échelonnement des humiliés. Et tout en bas, on trouvait Malek Bouali, et les siens, Frisé, Bico, Bougnoul, Négro. Ces mots s'employaient largement. Au fil du temps, le mépris qu'on avait pour lui et ses semblables s'était fait plus dissimulé. Il n'avait jamais disparu. Il avait même été promu, mais il restait au fond de son ventre comme un ragoût de colère qui avait brûlé 40 ans. Peu importait à présent, il touchait son chômage et avec la prime de licenciement de Métallor, il faisait construire une petite maison au pays. Rania était partie devant. Il savait tellement travailler. Et leur fils, qui, depuis tout petit, savait plus, comprenait mieux. Qu'est-ce qu'il s'était passé ? Malek s'éclaircit la voix. Je vais faire le thé. Il se dirigea vers la cuisine, abandonnant Hélène dans le petit couloir. Bientôt, elle entendit des bruits de placard, l'eau qui coulait, le brûleur de la gazinière. Ils burent le thé en silence, dans de petits verres dorés et brûlants qui faisaient des ronds dans la toile cirée. Leur hôte ne disait pas grand-chose. Les yeux fixés sur son verre, il ressassait des idées noires. En attendant, Hélène se passionnait pour son visage méditatif, creusé comme un champ, ses mains de travail. Cet homme, curieusement, lui rappelait son père. « Vous vous trompez, dit-il. Hassine n'est pas comme ça. » Il la regardait de ses yeux sans indulgence. Il ne mentait pas, il ne s'intéressait pas non plus à la vérité. Il se contentait de faire son métier de père. Plus tard, il le ferait avec Hassine. C'était prévu. Devant cette obstination, Hélène reprit une fois encore l'exposé des faits et l'homme écouta. Puis, de ses deux mains, il lissa la toile cirée, posa sur elle ses pupilles voilées. Elle avait les épaules nues. Elle était belle. Rien n'était simple ici-bas. Vous venez m'insulter chez moi ?
Ben, je crois qu'on n'en est plus là, dit Hélène.
Dehors, un merle chantait avec entêtement. Anthony se dit que si le vieux tentait quoi que ce soit, il lui arracherait la tête. Depuis le départ, il trépignait, les cuisses impatientes, les talons battant sous sa chaise. Il se demandait quand Hassine allait rentrer et imaginait le cours des événements. Il se racontait tout le temps des histoires comme ça, de règlements de comptes, de coups de poing dans la gueule. Mais Malek Bouali se contenta de fermer les yeux.
Et elle est où, cette moto ? J'ai pas de moto chez moi.
Je ne sais pas, admit la mère.
Alors, je veux parler à votre fils, je vous le dis depuis le début, il n'est pas là.
Je suis désolé, je partirai pas sans la moto.
Vous allez partir maintenant, fit l'homme de sa voix encombrée, caillouteuse, tout de suite.
Hélène et lui se mesuraient par-dessus la table. Ils étaient dans le dur à présent. L'éducation est un grand mot. On peut le mettre dans les livres et les circulaires. En réalité, tout le monde fait ce qu'il peut. Qu'on se saigne ou qu'on s'en foute, le résultat recèle toujours sa part de mystère. Un enfant naît, vous avez pour lui des projets, des nuits blanches. Pendant 15 ans, vous vous levez à l'aube pour l'emmener à l'école. À table, vous lui répétez de fermer la bouche quand il mange, de se tenir droit. Il faut lui trouver des loisirs, lui payer des baskets et des slips. Il tombe malade, il tombe de vélo. Il affûte sa volonté sur votre dos. Vous l'élevez et perdez en chemin vos forces et votre sommeil. Vous devenez lent et vieux. Et puis un beau jour, vous vous retrouvez avec un ennemi dans votre propre maison. C'est bon signe. Il sera bientôt prêt. C'est alors que viennent les emmerdes véritables, celles qui peuvent coûter des vies ou finir au tribunal. Hélène et l'homme en étaient là, à sauver les meubles.
Quand Hassine rentrera, je vais lui parler, promit l'homme. Si c'est lui, il rendra la moto.
Hélène décida de le croire. Même elle éprouva une fugitive tendresse pour ce vieux type humilié et décent.
« Vous pouvez me faire confiance, » dit-il encore en se levant.
Elle ramassa les trois verres, la déposa dans l'évier, puis la main tendue leur indiqua le chemin de la sortie. Chacun marquait les distances avec une minutie protocolaire. Sur le pas de la porte, on se serra les mains. Une fois seul, Malek Bouali s'adossa au mur. Ses lèvres avaient commencé de trembler. Il sentit que ses jambes l'abandonnaient. Il porta sa main à sa bouche. Mordit fort. La salive coula. Plus tard, il enfila ses souliers et descendit à la cave. Dans son box, on ne trouvait pas grand-chose à part des valises et des outils. En tout cas, il n'y avait pas de moto. Il prit son temps, empoigna une pelle, puis choisit une pioche. Il essaya un marteau. Il pesait chaque outil, évaluait sa prise, maniait l'objet sous l'ampoule pendue au plafond. Enfin, il arrêta son choix. Après avoir calé la pioche contre le mur, il scia le manche à ras du fer. Ensuite, il remonta chez lui avec son manche de pioche, s'installa devant la télé et regarda les JO. Les Américains reflètent tout. 200 mètres masculins et féminins, et Carl Lewis devança finalement Mike Powell au saut en longueur. Le manche de pioche demeurait à portée de main. Le temps passa, et la nuit vint. L'homme s'assoupit un peu avant 22 heures et fut réveillé par le retour de son fils. Il regarda sa montre et grommela quelque chose en arabe. Pour se lever, il dut prendre appui sur ses genoux.
« C'est toi ? Ouais, ouais. »
Le jeune homme se déchaussait dans le noir. Il était un peu défoncé et espérait que son vieux n'allait pas encore le saouler avec ses remontrances. « T'étais où ? Tu faisais quoi ? T'as pas vu ton frère ?»«
Je t'ai attendu. »
« J'étais avec des potes, je suis crevé, je vais aller me coucher. » Hassine sentit le déplacement d'une silhouette dans son dos, se tourna et vit que son père levait le manche de pioche au-dessus de sa tête. Il n'eut pas le temps de prononcer une parole, le manche s'abattit sur son crâne en rendant un son étonnamment creux. Puis un deuxième coup partit à la volée et l'atteignit au coude. Le garçon s'affala sur le lino, se protégeant du mieux qu'il pouvait avec ses mains. Les coups continuèrent à tomber et la douleur se répéta sur ses phalanges, ses flancs, le bas de son dos. Il pouvait entendre sa propre voix qui suppliait. Son père ne disait rien. Il soufflait et prenait son temps, appuyant chaque coup, lui donnant un poids de travail. Quand ce fut fini, le père enferma Hassine dans sa chambre. Ce dernier put alors constater les dégâts dans l'armoire à glace. Son arcade était bien amochée et il avait des bleus un peu partout. Il arrivait à peine à bouger les doigts. Il s'allongea avec précaution sur son lit. Il avait tellement mal partout qu'il se mit à rigoler nerveusement. Bientôt, un murmure inhabituel monta de la pièce voisine. Il colla son oreille contre le mur. Dans sa chambre, le père priait. C'est dire si la situation était grave. Hassine tira le drap jusque sur sa tête. Il se creusa longtemps les méninges pour savoir ce que le vieux lui reprochait. Il avait mal. Il avait honte. Il finit par s'endormir. À un moment donné, dans la nuit, il voulut aller pisser, mais trouva la porte fermée à clé. Il dut se soulager dans la corbeille à papier. Le matin, à 6 heures, son père vint le trouver. Ils eurent une discussion d'homme à homme. Le vieux lui expliqua que s'il recommençait, il le tuerait de ses mains. Hassine ne trouvait rien à y redire. En revanche, il allait retrouver ce petit pédé et son cousin. Ça, c'était clair et net. Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette suite du roman de Nicolas Mathieu, « Leurs enfants après eux ». Et nous retrouverons les aventures de ces enfants la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.